应该是打高尔夫了。
Au revoir les enfants. À bientôt.
Au revoir mon père.
Au revoir mon père.
Au revoir mon père.
I love you, but you don't know what you're talking about.
I love you too.
Elle vous a trahi et vous n'avez jamais compris pourquoi.
Comment savez-vous toutes ces choses?
Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission de cinéma sur Transistor. Double projection cette semaine, placée sous le signe du cinéma français, puisque notre toile accueille le classicisme parfaitement maîtrisé de Mal de Pierre de Nicole Garcia, puis les images familières et éternelles sélectionnées par Bertrand Tavernier pour son voyage à travers le cinéma français. À mes côtés aujourd'hui, les yeux et les voix d'Anastasia et de Mathias. Bonjour à tous les deux.
Bonjour Rémi.
Bonjour.
Alors nous commençons avec Mal de Pierre. Le film est centré sur Gabriel, interprété par Marion Cotillard. Jeune fille taciturne et solitaire, élevée sans douceur dans une famille provençale, refusant de comprendre sa sensibilité à fleur de peau, nourrie par une quête éperdue d'un amour absolu dont elle attend douloureusement la venue, voire la révélation. Sa famille finit par la marier à un de ses employés, un saisonnier espagnol, José, qui l'emmène vivre près de la mer. Résignée, elle le suit. Et c'est dans le sanatorium où elle part se faire soigner pour des calculs rénaux qui l'empêchent d'avoir un enfant, qu'elle rencontre un homme gravement malade, qui va soudain incarner le grand amour qu'elle a toujours attendu. Puis vient le moment de repartir, puis les lettres, sans réponse, et, des années plus tard, un dénouement terrible mais magnifique que je n'ai bien sûr pas le droit de révéler ici. Alors Anastasia, je me tourne vers toi, quel est ton avis sur Mal de Pierre? Je crois que nous ne le partageons pas.
Bon, moi, en fait, j'étais un peu déçue parce que j'attendais un peu plus de ce film-là, après la bande-annonce, qui m'a paru superbe et très très belle. Mais là, ce que j'ai vu dans le film, j'étais un peu déçue parce que c'était pas trop nouveau pour moi, je sais pas. C'était pour moi encore une histoire de quelque chose dit extraordinaire, comme une maladie pareille, c'est pas commun pour tous les gens. Et du coup, j'avais l'impression que les scénaristes voulaient faire quelque chose de une œuvre d'art, de quelque chose d'extraordinaire. Mais en fait, ça devient vraiment mainstream parce qu'il y a plein de films pareils. Je suis d'accord que c'est classique, peut-être, c'est beau, c'est ce que j'ai lu dans plusieurs critiques, mais pas plus pour moi. Voilà. Rémi, qu'est-ce que t'en penses?
Ben alors, ma réaction face au film est très contrastée avec celle par rapport à la bande-annonce, comme pour toi. C'est-à-dire que j'avais vu une bande-annonce éclatante qui jouait fort sur le violon et sur le pathos et qui me laissait attendre une grande envolée d'émotions et quelque chose dont finalement je me méfiais beaucoup. Parce que je m'attendais à voir un film avec un scénario qu'on croit quand même très très attendu et classique, sur une grande histoire d'amour dont on imagine bien qu'elle finira pas super bien, enfin voilà. Et en fait, je me suis retrouvé face à ce film qui est pris d'une tension qui ne se lâche jamais. Et le désir du personnage principal en particulier est un désir extrêmement sourd. Et c'est un désir qui paralyse tout le film. Et je me suis, enfin, ce film est vraiment complètement corseté. Le film est enfermé dans le fait qu'il n'éclate pas, justement. Et quand l'éclatement arrive finalement à la fin, c'est tout sauf quelque chose qu'on pourrait imaginer. Justement, ce que je trouve qui est extrêmement beau dans ce film et qui est extrêmement, extrêmement maîtrisé, extrêmement juste aussi de la part de la réalisatrice et des acteurs, c'est ce refus de verser dans le pathos, de verser dans un schéma émotionnel traditionnel et rebattu, et de faire de cette intrigue quelque chose d'extrêmement exigeant et qui, pour moi, fonctionne bien mieux, même si, en effet, on passe une bonne partie du film à se demander quand est-ce que ça va finalement éclater, parce qu'on sent qu'il y a une espèce de force dans ces personnages qui doit, à un moment, se déverser. Et la façon dont ça se termine est extrêmement intelligente et bouleversante, je trouve.
Je suis absolument d'accord pour la fin. C'est ce qui m'a surpris vraiment et ce que j'ai bien aimé. Sauf que je pense que la fermeture un peu de l'action, ça a dû pas au scénario, mais au fait que c'est toujours Marion Cotillard qui est vraiment au centre du film. En plus qu'il y a encore 4 films avec sa participation à ce moment au cinéma. Je l'aime bien, vraiment, je l'aime bien. Je la trouve géniale, talentueuse et tout. Mais pour moi, cette fermeture, ça a dû au fait que c'est toujours la talentueuse Marion Cotillard qui est au centre. Et après, d'autres personnages ne sont pas trop développés, en fait. C'est toujours elle qui est le centre du film. Et voilà, pour moi, c'était un peu... Je m'attendais plus.
Mais alors c'est vrai que Marion Cotillard est splendide dans ce film. C'est déjà elle qui apportait une touche très délicate et poignante dans le film pourtant tapageur de Dolan où elle était presque à contre-courant du film. Là, elle va dans le même sens, mais c'est la direction prise par le film et elle est vraiment parfaite dans ce rôle. Enfin, pour moi, c'est vraiment un très très grand rôle pour Cotillard, je trouve. Par contre, je suis pas forcément d'accord avec toi quand tu dis que toute la tension passe par elle. Parce que justement, je trouve que la mise en scène de Nicole Garcia, on voit très peu la réalisatrice, cette mise en scène est discrète, mais aussi très violente, dans cette discrétion même. Et puis le fait qu'on voit aussi le travail de toute l'équipe de réalisation. Dans les décors qui sont extrêmement travaillés, les costumes, la photographie aussi, qui sont tous faits sans aucune prétention, mais ça participe à cette démarche d'étouffement et qui laisse éclater le jeu de Marion Cotillard. Et puis des deux personnages secondaires, joués par Louis Garrel et Alex Brendemühl. Alors, on s'attendait à voir Garrel dans un grand rôle qui se transforme en rôle complètement secondaire, mais par contre, le rôle joué par Alex Brendemühl se révèle être d'une splendeur assez rare.
Mais je trouve ça un peu dommage que le personnage de Marie est très peu développé. Moi, je le trouve très touchant et inattendu aussi, parce que la plupart du film, il était un peu dans l'ombre et en fait, on sait pas des choses, on connaît pas des choses sur lui, désolé. Je trouve qu'on pourrait peut-être développer plus ce personnage parce qu'il est assez intéressant comme caractère.
Je trouve justement ce qui est beau, c'est la révélation de ce personnage à la fin. C'est ce mystère. Enfin, en fait, c'est même pas une question de mystère, c'est ce silence dans lequel on l'a laissé pendant tout le film, pour pouvoir mieux l'éclairer sur la dernière scène, pour pouvoir le rendre encore plus beau à la fin dans cette espèce d'apothéose qui, là encore, est très très discrète.
Quand même, il y a des choses que j'aime bien dans ce film, parce que même si j'avais dit que je n'ai pas aimé vraiment le film, mais c'est lié plutôt à mes espérances. Et à ce que j'avais attendu avant. Il y a des choses qui me paraissent très, très beaux. Ce sont des paysages, le cadrage, le travail du réalisateur, réalisatrice. Et après, la scène d'amour qui est vraiment très, très belle, même si elle est un peu classique, je trouve, mais elle est faite parfaitement avec, voilà, un peu à la limite. Et ça rend cette scène vraiment très, très belle. Voilà.
Mais alors on se rejoint quand même sur la beauté de cette technique exigeante avec elle-même, je trouve, mais aussi avec nous spectateurs, justement, parce qu'elle déjoue des attentes de grand spectacle pour nous montrer quelque chose peut-être d'un petit peu plus fermé. Mais malgré tout, je vois ça comme une perle enfermée, mais qu'il faut aller chercher. Parce que je continue à dire que c'est un très beau film, même si nous ne sommes pas forcément d'accord sur ce sujet. Alors j'ai bien envie, oui, de voir Mal de Pierre et Marion Cotillard rejoindre le panthéon du cinéma français, mais pour l'instant, on va se pencher sur les films et les grandes figures qui le peuplent déjà indiscutablement. Et on embarque pour le voyage à travers le cinéma français que nous propose Bertrand Tavernier. Alors, disons-le tout de suite, ce voyage dure 3h30. Le pèlerinage est long, il prend son temps. Et si les films sont autant d'invitations à visiter les édifices accueillants ou étranges bâtis par les cinéastes, alors celui-ci nous convie à la visite d'un grand musée, dont les toiles s'animeraient soudain pour nous donner à voir tel extrait savoureux d'Hôtel du Nord ou de La Règle du Jeu, telle image fugace et inoubliable de Romy Schneider ou de Jean Gabin. On n'en visitera pas toutes les salles pour pouvoir s'attarder sur le choix personnel et pétri d'émotions de notre guide Bertrand Tavernier. Le cinéaste est cinéphile surtout, mêle ici sa propre histoire, sa propre découverte émerveillée du cinéma à la grande histoire qui est aussi celle de ses maîtres et de ses modèles. Alors Mathias, quel est ton avis sur le film ?
Au-delà de ce qui pourrait sembler être une sorte de grand catalogue du cinéma français, où la tranche d'histoire, le cinéma français des années 30 jusqu'aux années 60, j'ai trouvé ce film extrêmement touchant et très sensible dans l'aspect qu'il a d'être une sorte d'autobiographie cinématographique. Parce que c'est pas juste... les grands films du cinéma français, c'est avant
c'est
tout.
C'est même pas du tout ça.
C'est même pas du tout ça. C'est avant tout la réception d'un spectateur qui commence par son enfance jusqu'à sa vie d'adulte, et les films et les grandes figures du cinéma français qui l'ont personnellement touché, soit parce qu'il a vu des films qui l'ont marqué, soit parce qu'il a rencontré des personnes du cinéma. Et j'ai trouvé donc ça. J'ai trouvé ça avec notamment ce visage face caméra de Bertrand Tavernier, qui est âgé aujourd'hui, qui raconte une enfance, une adolescence, une vie de jeune adulte, et qui regarde derrière lui et qui fait un chemin avec nous à travers des images, et comment on a toujours, enfin, comment ce va-et-vient systématique entre la vie personnelle et la vie de cinéaste se noue et nous emporte avec lui.
Oui, c'est ça, c'est ce montage d'archives donc commenté par Tavernier a quelque chose de très secret, intime et autobiographique, et c'est quelque chose de pleinement assumé par le film que de ne montrer que quelques tout petits fragments de l'histoire. Alors tout petit, non, parce que bon, quand même, Jean Renoir, Jean Gabin, mais oui, quelques fragments de l'histoire du cinéma français purement subjectif, et de passer complètement sous silence une tonne d'autres moments importants. Oui, mais François Truffaut par exemple, l'impasse est presque faite sur sa carrière. On parle pas de Romère non plus. Oui, ça, c'est guidé par sa vie, par son expérience du cinéma, et ça donne un côté très très touchant à ce film long, on l'a dit, mais qui prend son temps avec nous, et y a vraiment un côté passer une après-midi avec Bertrand Tavernier qui vous raconte ses souvenirs cinématographiques, et puis qu'est-ce qu'ils sont beaux, ces souvenirs, qu'est-ce qu'ils font envie. Et on s'est fait la réflexion, on aurait dû avoir un petit carnet, oui, sur nos genoux pour noter les références, pour presque noter les répliques savoureuses qu'il a retrouvées dans tous ses films. Et puis tout simplement, enfin oui, ça donne envie d'aller au cinéma, quoi.
Oui, c'est un film qui donne vraiment envie d'aller dans une cinémathèque et d'y passer une journée ou deux et de regarder tous les grands films des années 30 qu'on connaît ou dont on a vu certains extraits, mais là, dont on a envie de voir plus, en fait. Et c'est aussi le côté assez frustrant du film, parce qu'il y a beaucoup de films, il y a beaucoup d'extrêmes. En même temps, on a envie d'étirer la pellicule et qu'on nous montre le film dans son entier. Et ce que j'ai trouvé assez fascinant avec ce film-là, c'est que Bertrand Tavernier est toujours à la charnière entre le spectateur qu'il est et le réalisateur
qu'il deviendra,
avec son approche des films. On passe, pour certains films, de l'œil du spectateur à l'œil très précis et très technique du réalisateur, où on va passer d'un sentiment très, très vague et qui est celui du spectateur lambda, à l'analyse précise de jeux de caméra. C'est notamment frappant avec Le crime de Monsieur Lange de Renoir, puisqu'on passe sur une sorte de monographie sur Renoir, sa vie, sa relation avec Jean Gabin, etc. Et à un moment, Tavernier s'arrête et va nous faire une analyse très précise de la jonction des plans et des mouvements de caméra, avec un ralenti pour nous expliquer que en fait Renoir n'a jamais pu faire ça en un seul plan séquence et qu'il y a vraiment un montage derrière, et un peu déconstruire le mythe de Jean Renoir. Et toujours ce va-et-vient entre ce regard de spectateur et ce regard de réalisateur qui est fascinant et qui est systématique dans le film.
Oui, et puis toutes les anecdotes aussi, les extraits d'interviews qu'il a récupérés, il y en a quelques-unes qui sont assez hilarantes. Et puis oui, ces anecdotes personnelles aussi, puisqu'il a travaillé comme assistant de Melville, et quand on connaît le personnage qui était Melville, il y a déjà des anecdotes croustillantes à se mettre sous la dent, et ça fait vraiment une très très belle somme qui évidemment n'est pas un objet fini, ne peut pas être un objet fini, et qui, précisons-le, est amené à se poursuivre, puisque Tavernier prévoit de faire une version de 9 heures pour la télé, qu'on attend donc avec impatience.
C'est excellent. Et il y a une dernière chose, si tu me le permets.
Bien sûr.
Il y a quelque chose qui est sous-jacent dans le film et que je trouvais extrêmement intéressant. C'est la tentative de définition de ce qu'est un cinéma français. Et déjà, c'est dans le titre, Voyage à travers le cinéma français. Et sans doute parce que Tavernier a été marqué par son expérience américaine. Et il y a certains moments dans le film, sur la musique, sur le rôle du réalisateur, où il y a une comparaison qui n'est pas systématique, mais quand elle apparaît, c'est assez frappant, entre les ambitions du cinéma américain et la spécificité d'un cinéma français qui est marqué par une forme de légèreté et qui est marqué par une forme de liberté créatrice du réalisateur et dans la musique, et cette forme de désinvolture vis-à-vis de ce que peut être un canon. Et ça, j'ai trouvé, surtout aujourd'hui on parle beaucoup de ce qu'est l'art français ou le roman national, dans cette tranche d'histoire et d'histoire du cinéma, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant de réfléchir à la spécificité d'un moment culturel français et qui est sans doute amené à se continuer.
Complètement, et dont on espère qu'il est amené à se continuer, pourquoi pas avec Nicole Garcia et Malte Pierre que nous évoquions. Merci beaucoup, Mathias. Et maintenant, c'est le temps des bandes annonces, et je commence avec Oli Maki de Juho Kosmanen. Nous sommes en été 1962 et Oli Maki prétend au titre de champion du monde poids plume de boxe. De la campagne finlandaise aux lumières d'Helsinki, on lui prétend un avenir radieux. Et pour cela, il ne lui reste plus qu'à perdre du poids et à se concentrer. Mais il y a un problème. Oli est tombé amoureux de Raija, ce qui fait tout l'intérêt de ce film qui nous montre un boxeur en passe de devenir la fierté de tout un pays, mais qui pense à tout sauf à la boxe, tournant le dos à la médiatisation et aux enjeux financiers dont il est l'objet. Bref, un film de boxe qui ne parle pas de boxe et qui semble particulièrement attachant. Je continue avec Moi, Daniel Blake de Ken Loach. Pour la première fois de sa vie, Daniel Blake, menuisier anglais de 59 ans, est contraint de faire appel à l'aide sociale à la suite de problèmes cardiaques. Mais bien que son médecin lui ait interdit de travailler, il se voit signifier l'obligation d'une recherche d'emploi sous peine de sanction. Au cours de ses rendez-vous réguliers au Job Center, Daniel va croiser la route de Cathy, mère célibataire de deux enfants, qui a été contrainte d'accepter un logement à 450 km de sa ville natale pour ne pas être placée en foyer d'accueil. Pris tous deux dans les filets des aberrations administratives de la Grande-Bretagne d'aujourd'hui, Daniel et Cathy vont tenter de s'entraider. Ce film est la palme d'or du dernier festival de Cannes, où Ken Loach continue inlassablement à montrer à l'écran ce que l'on n'entend jamais et à transmettre sa révolte et sa compassion toujours intactes. Enfin, deux mots sur l'Institut Lumière, qui consacre sa prochaine rétrospective à Tom Cruise, grand ponte de la scientologie et acteur de génie s'il en est, qui a réinventé le jeu d'acteur dans les très audacieux Mission Impossible, qui porte le génie cinématographique et des sommets jamais égalés, enfin, il paraît. Plus sérieusement, si vous voulez voir du bon cinéma, vous pourrez aller voir Mauvais sang de Léos Carax, où un jeune homme inexpérimenté mais un peu prestidigitateur est engagé par un petit clan de truands pour accomplir un casse. Le garçon tombe amoureux de la maîtresse d'un des truands. Coup de foudre, coup de feu, tout se passe très vite et la mort est au bout du rite initiatique, évidemment. Léos Carax réinvente le film noir, lui rend un hommage éperdu d'admiration dans ce film culte réunissant le couple Juliette Binoche, Denis Lavant et le grand Michel Piccoli. Et enfin, c'est un événement assez rare pour qu'on s'en félicite, une nouvelle salle ouvre à Lyon, le ciné-café Aquarium, un lieu convivial, participatif et ouvert à tous les publics pour refaire de la salle de cinéma une pratique collective. Quatre activités sont mises au service du cinéma dans ce nouveau lieu. Un ciné-club d'abord, pour voir et revoir des films connus ou non. Alors ce mois-ci, vous pourrez voir Citizen Kane, À bout de souffle, Rubber ou Lost Highway pour vous mettre l'eau à la bouche. Et puis aussi un vidéo-club pour louer des DVD. Un atelier de réalisation et un café. Enfin, bref, un très très beau projet. Toutes les informations sont sur leur site internet, dont vous trouverez la référence sur la page de l'émission. Voilà, d'étoiles plein les yeux, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à Anastasia et Mathias pour leur participation à l'émission. Et à très bientôt sur Transistor. La semaine prochaine, il sera question de ma vie de courgette et moi, Daniel Blake.